Et pour ce matin, j'ai fait un PowerPoint. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Est-ce que tu peux juste, Dadou, me l'autoriser? Tu me dis quand c'est bon. Alors, ce sera plus chouette avec des images. Ah, voilà, super, impeccable. Ok. Et maintenant, il faut que je trouve mon truc, desktop. Ouais, c'est ça, partager l'écran. Et si je vais lancer, non, ce n'est pas Excel que je vais lancer, c'est PowerPoint. Et voilà. Super. Alors, ce matin, sans surprise, on va parler de la fête de Pâques. Et comme tout bon prédicateur, le défi est d'arriver à mettre en lien la Pâque juive, c'est-à-dire la délivrance d'Israël du pays d'Égypte, avec la mort et la résurrection de Jésus. Voilà. Si on arrive à mettre en lien la délivrance d'Égypte et la mort de Jésus, on arrive à prendre la Pâque dans son ensemble, qui a un message de puissance, de vie et de résurrection qui est absolument extraordinaire. Et je me suis même dit, si on trouvait un passage où on trouvait carrément la résurrection ou la croix en Égypte, alors là, ce serait parfait, parce que là, le lien serait évident. Et en fait, cette semaine, même si j'étais au boulot, j'ai trouvé un passage où on trouve le crucifié en Égypte. Alors, avant de vous le donner, je vais vous donner le cadre, et c'est un passage qui est extraordinaire et qui nous révèle toute la dimension de la croix au travers des âges, au travers de l'histoire biblique. Donc, ce qu'on va faire ce matin, tout simplement, c'est un parcours, un petit parcours qui va passer par l'ancienne Égypte, qui va nous amener jusqu'à Jérusalem et bien plus encore, bien plus loin. Et ce parcours, il commence il y a 2000 ans, dans les préparatifs de la Pâque juive, où tous les pèlerins viennent à Jérusalem pour préparer l'agneau pascal. Et les pèlerins viennent de tout le bassin méditerranéen pour fêter ça. Malheureusement, Jésus, lui, il n'est pas dans cette ambiance festive, puisqu'il se retrouve trahi et condamné devant le Sanhédrin. Lui, il n'est vraiment pas dans la fête. Et à cet instant, il se retrouve victime d'un complot, d'une trahison. Donc, c'est vraiment un moment difficile. Et le grand prêtre va lui poser une question qui est très simple, mais qui est énorme. Il va lui demander si il est le Messie. Il va lui demander, est-ce que Jésus, tu es le Messie? Et si à chaque fois, il ne va pas répondre directement en disant, c'est toi qui le dis, ou si je te le dis, tu ne me crois pas. Il va toujours répondre la même chose dans tous les évangiles. Il va répondre ceci, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées. Et je me suis posé la question, je me suis dit, pourquoi à la veille de sa mort et de sa résurrection, pourquoi à l'occasion de la Pâque juive, Jésus rappelle que le Fils de l'homme doit venir s'asseoir à la droite de la puissance de Dieu. Surtout que cette réponse va provoquer la plus grave condamnation au monde, c'est la condamnation du Fils de Dieu. Alors pourquoi à la veille de la Pâque juive, à la veille de sa mort, à la veille de sa résurrection, la lumière que Jésus veut mettre sur tout ça, c'est une vision du Fils de l'homme qui doit venir régner sur le monde. Et en parlant du Fils de l'homme, Jésus nous fait faire un voyage 7 siècles auparavant, donc on va encore un peu plus en arrière, et c'est une vision qu'on retrouve chez le prophète Daniel qui est déporté à Babylone, donc des siècles, vraiment des siècles auparavant, en Daniel au chapitre 7. Et c'est une vision d'Apocalypse. C'est pour ça que je voulais appeler ce message une Pâque apocalyptique, mais ce n'est pas très glamour, quoi. Ça fait un peu beaucoup. Mais Jésus, en parlant du Fils de l'homme lors de son procès avant sa mort, il nous ramène dans une vision apocalyptique. Et on a de la chance parce que cette vision, Daniel, il va recevoir l'explication. Donc au moins, on ne va pas partir dans des théories fumeuses. Et dans cette vision, alors très simplement, hein, on voit 4 bêtes. Voilà. Un lion, un ours, un léopard et une bête épouvantable. La Bible ne décrit même pas la dernière bête. Et ce qui est très commode pour nous, c'est que Daniel va recevoir l'explication. Les bêtes qu'il voit, ce sont des empires qui se sont succédés, l'Assyrie depuis Daniel jusqu'aux Romains à Jésus. Donc il dit il y a des empires qui se sont succédés dans le temps. Et juste après cette vision-là que Daniel va avoir, il va avoir la vision du Fils de l'homme dont Jésus parle avant sa mort et sa résurrection. Et ça, c'est en Daniel 7, à partir du verset 13. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un Fils de l'homme. » Donc, on est dans la vision de Jésus à son procès. « Il s'avança vers l'Ancien des jours, c'est Dieu, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. » Alors, vous allez me dire maintenant qu'on a lu ça, quel rapport entre la mort et la résurrection de Jésus et la vision du Fils de l'homme ? Et ce qui est d'autant plus fascinant, c'est là où je veux en venir, c'est que dans cette vision du Fils de l'homme, dans cette vision des bêtes, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le chapitre 7 de Daniel, dont Jésus fait référence à son procès. C'est que pendant son procès, pendant le procès où Jésus est jugé par le Sanhédrin, il fait référence à une vision qui parle elle-même d'un autre procès. Parce que la vision du Fils de l'homme, elle s'inscrit dans un procès. Et je vous lis la suite. Si j'ai mon curseur, voilà. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'Ancien des jours s'assit, Dieu s'assoit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1 000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient dans sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Alors vous voyez, Jésus, il est en train d'être jugé par le Sanhédrin et il fait référence au Fils de l'homme. Et dans cette vision-là, il y a un jugement aussi qui est en place. Donc on se dit, Jésus parle d'un jugement pendant son propre jugement, ce qui n'est pas anodin. Et évidemment, un jugement va être prononcé contre cette bête. Il prononce des paroles contre le Très-Haut. Donc en fait, c'est les bêtes qu'on a vues, c'est-à-dire ces empires-là, ces empires qui ont traversé le temps. Puis viendra le jugement au verset 20. On lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Donc, si on résume, et en fait, vous allez voir, ce n'est pas compliqué, Jésus, il est en train de passer en jugement devant le tribunal du Sanhédrin. Jusque-là, tout va bien. Et dans le procès qui lui est fait, il fait référence à une vision dans laquelle il y a un procès. Donc, en fait, je vais le formuler comme ceci. Jésus parle du procès de la vision de Daniel pendant son propre procès face au Sanhédrin. Et ça, connaissant Jésus, c'est qu'il a quelque chose derrière la tête. Et dans le procès de la vision de Daniel, on voit les bêtes, les empires qui se succèdent, qui font le mal. On a parlé de Babylone, des Grecs, jusqu'aux Romains. On voit tous ces empires qui se succèdent dans sa vision. Et Dieu va condamner ces nations, ces empires, il va les condamner. Et alors pourquoi Jésus rappelle au grand prêtre que Dieu condamnera les nations et ces empires de la vision de Daniel ? Pourquoi il fait référence à cela ? Et en fait, ce n'est pas compliqué, c'est le principe de l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que Jésus se retrouve face aux pharisiens, c'est-à-dire à des gens qui cherchaient à pratiquer la justice de Dieu. Et en disant qu'il est le Fils de l'homme, Jésus fait référence à un procès dans lequel Dieu juge les nations et les empires qui sont mauvais. Parce que c'est ça la vision de Daniel, c'est des empires qui pratiquent le mal et l'injustice. Et donc, ce n'est pas Jésus qui passe en procès, ce sont les pharisiens qui passent en procès, ce sont les nations qui passent en procès, c'est le monde qui passe en jugement. Et c'est ça qui est extraordinaire dans cette référence de Jésus au Sanhédrin, où on lui dit, on lui demande de s'expliquer, on le condamne, on veut le tuer, et Jésus, il fait référence à une vision où en fait, ce n'est pas lui qui est jugé, ce n'est pas Dieu qui est jugé, ce sont les nations qui sont jugées. Et c'est extraordinaire, cette référence à Daniel au chapitre 7. Donc Jésus est en train de leur dire, vous me faites un procès, mais ce n'est pas moi qui suis jugé, et encore moins Dieu, mais c'est Dieu qui est en train de juger le monde. En fait, Dieu est en train de juger le péché du monde parce que par ces bêtes que Daniel voit, ça symbolise les empires, tous les empires qui se sont succédés dans l'histoire de l'humanité. Et Jésus est en train de leur dire, vous voyez, ces bêtes ont traversé les âges et Dieu va les juger un jour. Eh bien, au jour où vous me jugez, en fait, c'est ce jour-là que Dieu juge le monde, le péché du monde, le péché des nations. Alors évidemment, le grand prêtre, il n'apprécie pas trop la référence. Parce que si Jésus se place dans la place du Fils de l'homme, le grand prêtre, il se met du côté des bêtes, quoi. Automatiquement, bah, il se dit, mince, en fait, c'est nous qui passons au grill, c'est pas Jésus qui est jugé. Il n'accepte pas ça. Il n'accepte pas ça. C'est tellement insupportable. Le grand prêtre va prendre une décision incroyable. Il va condamner à mort le Fils de Dieu. Parce qu'il ne peut pas entendre que c'est lui, en fait, qui symbolise ces bêtes, ces nations, ce péché de l'humanité, que Dieu est en train de juger pendant le procès de Jésus. C'est insupportable. Alors, il le condamne à mort. Jésus révèle, en fait, il dévoile le tribunal, il dévoile la mascarade, il dévoile que les nations ont péché, il dévoile que le monde a péché, et le monde ne supporte pas ça. Et au lieu de faire face à la vérité, il préfère tuer Jésus. Donc, à la veille de la Pâque juive, les pharisiens ont préparé et mis en œuvre le procès et la mise à mort de Jésus. Mais Jésus leur dit, ne vous y trompez pas, ce n'est pas moi qui suis jugé, c'est vous qui l'êtes, vous, les nations, le monde, le péché du monde. Et c'est un retournement de situation assez extraordinaire et dramatique, parce qu'on ne juge pas Dieu, c'est Dieu qui juge, c'est aussi simple que ça. Et vous voyez, quand Jésus fait référence au Fils de l'homme dans son propre procès, il est en train de dire, Dieu est en train de juger le monde. C'est ce qui se passe à la Pâque. La Pâque juive que Jésus vit, pendant son procès, Dieu est en train d'établir un tribunal où il juge les nations et le monde. J'aimerais ajouter même une dimension encore plus grande à ce procès qui a lieu. Hein, on croirait que c'est Jésus qui est jugé. Non, Dieu est en train de juger le péché. C'est ce qui se passe à son procès. Dieu juge le péché, ce n'est pas Jésus qui est jugé. Et j'aimerais ajouter autre chose. Alors, c'est un autre passage de la Bible que je ne vais pas lire parce que sinon, vous allez vous endormir. Mais c'est un passage en Apocalypse 11 où on retrouve le procès de Dieu qui juge le monde et les nations. On retrouve Dieu qui s'installe avec ses anciens pour juger et condamner ses bêtes, ses empires, ses nations, ses péchés. Et là, on trouve un verset mais qui est extraordinaire. Apocalypse 11, versets 7 et 8. Regardez ça. La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre au sein, hein, c'est-à-dire la bête, le péché, ce qui symbolise ces nations. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Et là, on trouve le crucifié en Égypte. Alors, j'étais assez content de cette petite trouvaille-là. Cette semaine, on retrouve le crucifié en Égypte, ce qui est complètement une vision cosmique qui sort du temps, quoi. Le crucifié, il est mort quoi ? Il n'est pas mort en Égypte, il n'est pas mort à Sodome. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette vision ? En fait, ça veut dire que à chaque fois qu'il y a eu le péché, dans tout ce qui symbolise le péché, il a fallu le crucifier pour apporter ce pardon-là. Et tout se cristallise à sa mort et à sa résurrection pendant son procès. Mais c'est une vision d'Apocalypse qui est formidable. Qui est formidable. La crucifixion rachète du péché partout, partout dans l'histoire. Et comme dans la vision de Daniel 7, dans ce même chapitre de l'Apocalypse, eh bien, Dieu prononce un jugement contre les nations. Donc, c'est le même procès qui a lieu. Je vous laisse les références. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? Si on devait résumer un petit peu tout ce que j'ai dit, parce qu'il y a des visions apocalyptiques de Daniel, de l'Apocalypse de Jean, on voit que Jésus fait référence à des choses vraiment cosmiques, éternelles, très puissantes. Je vais le résumer comme ça. En fait, ce que la Bible est en train de nous dire, c'est que depuis Sodome, on vient de voir ce passage d'Apocalypse qui dit « on trouve le crucifié à Sodome ». Depuis l'Égypte, où on trouve aussi le crucifié, depuis l'Ancienne Égypte, on peut penser même à la tour de Babel ou même à la chute d'Adam et Ève, on peut penser à toute l'histoire du péché. Daniel nous parle des bêtes qui ont parcouru le temps de Babylone jusqu'à Rome. Mais l'idée dans ces visions d'Apocalypse, c'est de dire « depuis qu'il y a le péché sur la terre, il y a un jugement qui est en place. Et dans toutes ces périodes de l'histoire, on trouvera le crucifié qui va racheter, au moment de sa mort, le péché de toutes ces époques-là de l'histoire du salut. Le péché de Sodome, le péché en Égypte, le péché de Babylone jusqu'à Rome, le péché jusqu'à la fin du monde. C'est pour ça que c'est une vision cosmique. Le crucifié, on le trouve partout, parce que le crucifié rachète de tous les péchés du monde à tous les moments. Et ça dépasse complètement le cadre du procès de Jésus. On croit qu'il est en train d'être jugé, mais là, à ce moment-là, le crucifié, il est en train de mourir pour toutes ces époques-là, pour tout le monde. Parce que le drame de l'histoire du salut, c'est que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et si à la Pâque juive, on juge le fait que Dieu ait jugé Pharaon pour avoir puni et mis en esclavage Israël, dans la Pâque que Jésus accomplit, en parlant du Fils de l'homme, Jésus dit que ce n'est pas lui qui est jugé, mais Dieu juge les nations, les empires, le monde, le péché, la mort, la maladie, tout ce qui vient de la chute, il est en train de tout juger. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et dans la puissance de la croix, qu'on retrouve en Apocalypse à Sodome ou en Égypte, le crucifié rachète des péchés tout au long de l'histoire biblique. C'est tellement puissant ce qui se passe dans la croix et dans la résurrection. C'est tellement puissant. Et alors, la bonne nouvelle, et ce qui est encore plus inattendu pour le Sanhédrin, qui, je pense, n'a pas compris ce qui se passait pendant le procès de Jésus, c'est que les nations ont péché tout au long de l'histoire. Elles ont dévoré comme ces bêtes, elles ont tué, elles ont pratiqué le mal et l'injustice. Et elles méritaient un jugement parce qu'elles ont condamné à mort le Fils de Dieu, mais ce n'est pas possible. Ces nations n'ont pas assumé là, elles voulaient mettre à mort Jésus. Et Dieu, il était témoin de ce procès. Le Père est témoin d'un procès dans lequel le Fils est condamné pour rien, pour le péché de gens qui ne pouvaient pas faire ça. C'était des hypocrites, ils ne pouvaient pas le juger. Et la chose la plus inattendue dans ce procès, c'est que Dieu prend tout le jugement des nations et du monde, du péché, chez les hommes abominables, depuis Sodome jusqu'à l'ancienne Égypte, de Babylone jusqu'à Rome, il prend tout le péché du monde et il le met sur son fils Jésus. Toute l'histoire de la croix qu'on retrouve partout, tout le péché du monde, le Père voit son fils se faire accuser injustement et pourtant il prend tout ce péché et il le met sur son fils Jésus. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce procès parce qu'il aurait pu juger le monde, Dieu. Il n'avait pas à faire ça, mais il a décidé de le faire dans son libre arbitre. Il a décidé de le faire, il a décidé de nous racheter. Pourquoi ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, dans cette croix, dans ce procès, dans cette croix qu'on retrouve à Sodome, qu'on retrouve en Égypte, qu'on retrouve à Jérusalem et qu'on retrouve partout dans le monde, la colère de Dieu s'abat pour vaincre le péché du monde, mais il le fait au travers de son Fils. Et ça, c'est extraordinaire. Et je pense que même eux, ils ne l'ont pas compris. C'est pour ça que Jésus a dit « pardonne-leur » parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on réalise par là que Dieu est tellement bon, quoi. Il a vu son Fils passer en jugement injustement. Il a vu ces bêtes féroces, ce péché, ces empires qui ont fait le mal. Et pourtant, il a dit « c'est mon Fils qui va tout porter ». Et c'est quelque chose d'admirable et d'extraordinaire. Et comment il fait ça ? Eh bien, il fait ça par l'événement du Fils de l'homme, par la mort et la résurrection de Jésus. Donc, dans le procès de Jésus, ce n'est pas Jésus qui est jugé, ce sont les nations qui sont jugées. La bête se dévoile, elle tue, elle détruit. Mais là, c'est toute la puissance de la résurrection parce que Jésus meurt, mais Jésus va détruire le problème du péché depuis la mort. Il va dans la mort, de l'intérieur, et il va briser le problème du péché et de la mort pour accéder à un règne éternel. Et c'est la vision du Fils de l'homme. Il vient depuis les nuées pour régner à la droite de la puissance de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Voilà ce qui se passe au procès de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui est jeté dehors. C'est le prince de ce monde qui est écarté, qui symbolise, qui cristallise ces nations qui veulent prendre la place de Dieu. Et Paul, de le dire autrement, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par le spectacle de la croix. Voilà tout ce que cristallise la résurrection de Jésus. Il va vaincre le péché, le jugement est passé, il est passé sur Jésus. Et voilà, on est sauvé, on est pardonné, c'est extraordinaire. Et celui qui croit que Jésus est mort pour ses péchés, il a la vie éternelle. La résurrection symbolise donc l'inauguration de cette vie éternelle dans laquelle on a part, parce que Jésus, dans ce tombeau, il a vaincu la mort et le péché. Alors, je terminerai tout simplement en disant ce que m'inspire tout ça, en fait. C'est de dire à Dieu merci, merci pour ton salut, merci pour ta grâce, parce que tu aurais pu juger le monde, tu ne l'as pas fait. Et alors que ton fils est passé en jugement de façon injuste par des bêtes féroces, mais pourtant, ce jugement, tu l'as mis sur lui. Ce pardon, il n'est pas anodin. C'est une grâce qu'on reçoit tous les jours qui est extraordinaire. Et la résurrection en est le symbole de la victoire. Donc, merci Seigneur pour ta grâce. Et je vous souhaite joyeuse Pâques à tous. Soyez bénis.